C'est pas dans l'Ancien Testament ?
C'est pas un personnage égyptien ?
C'est pas dans la religion chrétienne ou c'est pas dans une famille de Jésus, hein, non ?
Ibrahim, il a deux fils et Dieu lui dit qu'il doit sacrifier un de ses fils.
Il est allé en haut d'une montagne et il l'a attaché et au bout d'un moment, il y a un ange qui est venu.
Et au moment de le tuer, Dieu lui dit arrête.
C'était juste pour savoir si Abraham faisait assez confiance en Dieu.
Et au final, il a tué un mouton ou quelque chose comme ça ?
Bah moi, ce qu'on m'a raconté, je connais pas trop non plus, mais ma mère, elle m'a parlé un peu. C'est notre prophète.
Bah on tue un mouton en hommage à celui qui a tué un bélier.
Genre c'est pour ça, à la fin, on fête l'Aïd.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Connaître les religions, c'est important pour mieux comprendre le monde. La peur et la haine se nourrissent souvent de l'ignorance. C'est le point de départ de cette série d'émissions spéciales. Nous avons déjà parlé de la Bible et de la Torah. Aujourd'hui, voici le Coran expliqué aux enfants et nous allons évoquer en particulier un sacrifice. Voilà un mot qu'on emploie de façon banale. Il n'y a pas assez de gâteaux pour tout le monde. Allez, je me sacrifie. On dit souvent des mères qu'elles se sacrifient pour leurs enfants aussi. Mais si on y prête attention, ce mot porte en lui le sacré. C'est même la racine du mot sacrifice. Ce glissement vers le profane est intriguant. On verra ce qu'il raconte de nos sociétés. C'est le sacrifice du fils d'Ibrahim qui nous intéresse aujourd'hui. Ou plutôt le vrai faux sacrifice. Car l'enfant d'Abraham fut sauvé in extremis. Que faut-il comprendre de cette histoire? Que dit-elle de la foi musulmane? Et de la relation des croyants à leur Dieu? Que dit-elle de la confiance? Et ne serait-elle pas l'occasion pour tout le monde, musulmans ou non, croyants ou non, de réfléchir à ce que signifie se sacrifier. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Bonjour Rachid Benzine.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes islamologue, politologue et écrivain, auteur entre autres d'un livre intitulé « Le Coran expliqué aux jeunes », édition du Seuil. Des mille et une façons d'être juif ou musulman, coécrit avec le rabbin Delphine Horviller. Et votre tout dernier livre, toujours au Seuil, est un roman avec les révolutions arabes en toile de fond, dans les yeux du ciel. Rachid Benzine, j'ai posé la question à mes invités sur la Bible et à ceux sur la Torah, je la pose aussi à vous sur le Coran. Le Coran est-il d'une certaine manière un livre de contes, des histoires qu'on se raconte ?
En tout cas, il y a un certain nombre d'histoires que l'on peut retrouver à la fois dans la Bible ou dans les évangiles. Simplement, la perspective, la manière de le raconter, elle est un peu différente. Pourquoi ? Parce que les hommes auxquels s'adresse le Coran ne sont pas les hommes de la Bible, ni ceux des évangiles. Et le contexte n'est absolument pas du tout les mêmes. Mais il est clair que ce sont des textes qui sont importants parce qu'ils racontent des histoires auxquelles peuvent s'identifier les gens, que ce soit Abraham, que ce soit Jésus, que ce soit Moïse. En fait, ce sont des figures d'identification.
Donc ça n'est pas manquer de respect aux croyants que de parler du Coran comme d'un livre d'histoire.
Absolument. En tout cas, c'est un livre qui raconte des histoires d'un point de vue religieux. Donc il y a un événement théologique derrière et on peut même prendre le Coran en tant que texte littéraire.
Ma deuxième invitée est une imam. Bonjour Anne-Sophie Montinet.
Bonjour.
Bienvenue. Vous avez grandi dans une famille de culture catholique. Vous vous êtes convertie à l'islam il y a une dizaine d'années, je crois, et vous êtes devenue imam. Que dit le Coran sur la possibilité pour une femme d'être imam ?
Alors, le Coran n'aborde pas cette question-là, ne parle pas du genre de l'imam. Il n'y a absolument rien qui s'y oppose. On sait aussi que dans la tradition prophétique, donc les hadiths, c'est les paroles du prophète, le prophète aurait autorisé une femme à diriger une prière. Voilà, donc c'est quelque chose de tout à fait possible, d'autant plus que le Coran se veut ce qu'on appelle le progressisme, c'est-à-dire qu'il se veut donner beaucoup de droits aux femmes à une époque où elles en avaient très peu.
Vous êtes la fondatrice d'une association Voix d'un Islam éclairé, mouvement pour un islam spirituel et progressiste, et vous incarnez ce qu'on appelle le soufisme. Peut-être faut-il préciser de quoi il s'agit ?
Oui, le soufisme, c'est la voie mystique et initiatique de l'islam. Donc c'est-à-dire que l'on va approfondir un peu plus sa relation avec Dieu, on a les mêmes pratiques que les autres musulmans, mais on en ajoute.
Et mon troisième invité, ça peut sembler étonnant, fait partie de la bande de Charline Vanhoenacker. Bonjour Ramzi Assadi.
Bonjour.
Bonjour.
Il a cette chance, vous êtes le rédacteur en chef de Par Jupiter sur France Absolument. Inter, mais ce n'est pas pour ça que je vous ai invité. Vous êtes surtout l'auteur, aussi l'auteur de aussi. L'Islam raconté et expliqué. Très beau livre jeunesse, illustré par Hélène Heldegger aux éditions Saltimbanque. Et votre ambition, c'est de remettre la mosquée au centre du village.
Exactement, oui. Le but de ce livre, pour moi, à titre personnel, c'était de redécouvrir la religion que je ne connaissais pas réellement. Donc l'objectif, c'est de redécouvrir et de la raconter de manière simple pour l'expliquer aux jeunes qui ne connaissent pas vraiment cette religion, comme moi, je ne l'ai pas connue quand j'étais jeune.
Est-ce qu'il est important, à votre avis, que l'on soit croyant ou non, de connaître les bases de chaque religion ?
Tout à fait, ouais. Mmh. Oui, parce qu'en fait, on nous balance des stéréotypes sur toutes les religions. Et si on ne creuse pas l'histoire de ces religions et comment elles se sont fondées, et ben en fait, on en perd le sel.
Et Rachid Benzine, est-il compliqué d'expliquer le fait religieux aux enfants ?
C'est assez difficile parce que aujourd'hui, le fait religieux est empêtré dans des questions de violence, dans des questions sociales, psychologiques. Et c'est quelque chose qui est très difficile. Mais ce qui est très important de dire aux enfants, c'est que le fait religieux fait partie de la culture générale et qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, l'histoire de ce pays, la civilisation occidentale, si on ne connaît pas, je dirais, les sous-textes même de la Bible. Il suffit d'aller simplement dans un musée et voir qu'est-ce que cette culture biblique a produite. Mais je dirais que tous ces textes, tous ces tableaux sont une manière pour les hommes de mieux se comprendre. Et je crois que la culture religieuse, elle est importante parce qu'elle permet de savoir comment d'autres que nous ont pensé un certain nombre de questions qui restent toujours relatives à notre époque.
Alors, on va se plonger dans cette histoire, celle d'Ibrahim, qu'on peut aussi appeler Abraham. Ramzi Assadi va nous lire tout à l'heure la page de son livre qui raconte ce sacrifice. Pouvez-vous d'abord nous dire, Anne-Sophie Moncinet, qui est Ibrahim ?
Alors, Ibrahim ou Abraham, hein, c'est le même personnage, c'est une question de langue. Donc, c'est un prophète et pour les musulmans, il est à l'origine, avant Mohammed, des prémices de l'islam.
Donc, Mohammed qu'on appelle aussi Mahomet, précisons-le également.
Alors, effectivement, oui, c'est aussi le même personnage. Et Ibrahim se trouve être à l'origine de l'islam parce que le Coran nous raconte que c'est lui qui, avec son fils Ismaël, a établi la Kaaba, donc qui est le temple des musulmans qui se trouve à la Mecque, bien avant la révélation du Coran. Donc, en fait, c'est la première pierre qui fait que le Coran a été révélé à cet endroit. C'est pour cette raison-là. Donc, c'est extrêmement important parce que sans tout ce contexte-là préalable à l'arrivée du Coran, ben, il n'y aurait pas eu l'islam à ce moment-là et de cette manière-là.
Donc, Ibrahim Rachid Benzine, c'est le premier des musulmans.
Alors, il faut essayer de s'entendre ce qu'on entend par musulman. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre Abraham comme premier musulman, comme celui qui ferait aujourd'hui les cinq piliers de l'islam, à savoir la prière, le ramadan et tout ce qui va avec. Simplement, le terme islam dans le Coran a une autre acception que celle que nous lui donnons actuellement. C'est simplement l'idée de s'être remis à Dieu, ou en tout cas être sous la protection de Dieu. Et je crois que c'est très très important parce que si on dit qu'Abraham était musulman, beaucoup de chrétiens et de juifs ne comprendraient pas qu'Abraham finalement soit musulman. Mais simplement, ce que l'on peut dire pour aller très vite, c'est que Abraham, dans la Bible, c'est un patriarche, alors que dans le Coran, c'est un prophète.
Quelle différence entre un patriarche et un prophète ?
Dans le sens de patriarche, il y a la question de la généalogie, il y a la question de la naissance d'un peuple, ce qui n'est pas du tout le cas dans le Coran, puisqu'il advient dans un autre contexte, et que la problématique n'est absolument pas du tout la question de la généalogie, dans laquelle le Coran essaie plutôt de lutter contre cette idée de la généalogie.
Et un prophète, c'est un porteur de message ?
C'est un porteur de message, en tout cas, il est envoyé, et ensuite il a un message à délivrer.
Un peu de lecture, Ramzi Assadi. Je vous propose d'ouvrir votre livre à la page 62.
Ibrahim eut un premier fils avec Hajar. Il s'appelait Ismaël. Alors qu'il était dans le désert, près de la Mecque, Dieu s'adressa à lui dans un rêve et lui ordonna de sacrifier son fils unique. Dieu voulait s'assurer que la foi d'Ibrahim était solide et sans faille. Ibrahim accepta la volonté de Dieu et décida d'en parler à son fils. Ismaël accepta cette épreuve et lui dit: « Fais ce qui t'est ordonné, mais évite de te salir de mon sang, afin que ma mère l'ignore. » Tous deux partirent vers la plaine de Mina, une vallée près de la Mecque où devait avoir lieu le sacrifice. En cours de route, Satan tenta trois fois de dissuader Ibrahim, mais ce dernier le repoussa en lui jetant des pierres. À l'instant où il allait égorger son fils, Dieu arrêta son geste à travers l'ange Djibril. « Ibrahim, tu as été fidèle. » « Sacrifie plutôt le mouton que voici. » L'homme lâcha son enfant et prit la bête et la sacrifia en signe de remerciement. La foi d'Ibrahim était pure et sincère. Plus tard, Ibrahim eut un second fils avec sa femme Sarah. Il fut prénommé Isaac.
Extrait de votre livre, Ramzi Assadi, L'Islam raconté et expliqué, édition Saltimbanque. Alors Ibrahim, on l'a compris, était sur le point de sacrifier son fils. Dieu l'interrompt au dernier moment. Voilà une histoire qui va interpeller les enfants, évidemment, et les enfants et les adolescents que notre reporter a rencontrés. Caroline Pommès est basée à Chamonix, en Haute-Savoie. Elle a tendu son micro. Certains des enfants interrogés sont croyants, d'autres non.
Moi, si c'est Dieu qui le demande, oui, je pourrais le faire. Mais si par contre c'est une personne qui me le demande, bah non, j'aurais pas envie.
Si tu crois en Dieu, ça peut se justifier, mais comme nous on croit pas en Dieu, bah je l'aurais pas fait non plus.
Enfin ouais, t'as beau croire en Dieu, tuer quelqu'un de ta famille, c'est quand même quelque chose. L'amour prend le dessus, et tu peux pas tuer quelqu'un de ta famille. Faut vraiment croire en Dieu, quoi.
Au début, c'est un peu horrible pour nous. Mais après, on comprend que Dieu, il a juste envie de mettre à l'épreuve Abraham. Moi, je ne suis pas sûre, mais peut-être j'aurais supplié Dieu de ne pas sacrifier mon fils.
Dieu, il a sauvé le fils en lui offrant un bélier, donc c'est beau. C'est un beau geste de Dieu.
Enfin, ça fait passer un message, c'est ça le truc. Qu'il ne faut pas sacrifier ses proches et voilà.
Ouais, faut pas s'entretuer.
Peu importe à quel point on aime nos enfants dans l'islam, s'il faut les sacrifier pour Dieu, tout le monde est prêt à le faire. La plupart des familles, la plupart des parents que je connais. Au début, j'y croyais pas parce que une fois, on a commencé à débattre ceci. Et là, mes parents, ils me disent oui, je suis prêt à te sacrifier pour Dieu. Et j'étais là en mode ah oui, c'est comme ça, hein, je savais pas. Du coup, je suis d'accord avec eux, je suis tout à fait d'accord. Et...
D'un point de vue extérieur à la religion, c'est vrai qu'on peut ne pas comprendre le geste.
Oui.
Enfin, c'est sûr que même moi, je me dis, je sacrifierais peut-être pas mon fils pour ça, quoi.
Dieu a mis en épreuve Abraham.
Bah, Dieu, il veut juste montrer que c'est lui qui prend toutes les décisions. C'est
une fois que tu lui fais confiance, bah, voilà. Il te le rend.
Donc, s'il fait quelque chose, c'est pour une raison et c'est pour ça qu'on y croit et qu'on est prêt à aller aussi loin.
Et je retiens une jolie formule, Dieu a mis Abraham en épreuve. Que retenez-vous de ce qu'on vient d'entendre, Rachid Benzine ?
Bah, beaucoup de choses. À la fois, le côté un peu choquant de la demande, je pense que c'est important de pouvoir l'entendre. J'entends aussi l'idée de la confiance, j'entends aussi l'idée de la question de l'épreuve et de dire qu'est-ce que c'est qu'une épreuve pour le croyant.
Quel est le sens de cette demande de sacrifice d'abord ? Il s'agit de tester la foi d'Ibrahim ?
Alors je dirais qu'il y a plusieurs sens, c'est ça qui est très important vis-à-vis des textes religieux ou de tout texte littéraire, c'est d'accepter qu'il y ait plusieurs sens. À un moment, Abraham a un songe, et il se voit en songe en train, je dirais, d'immoler son fils. Et c'est ça qui est très intéressant dans le Coran, et il demande à son fils « qu'en penses-tu ?». Vous voyez, donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire que il reçoit un songe, on ne sait pas ce que c'est, est-ce que c'est une recommandation de Dieu, on ne sait pas. Et simplement le fils lui dit, fais ce qui t'est ordonné. Donc du coup, le fils interprète la vision du père.
Donc c'est un songe d'Ibrahim, ça n'est pas une demande de Dieu ?
En tout cas, le fils dit, fais ce qui t'est ordonné. Et après, plus loin dans le récit, le Coran dit, tu as cru dans la véridicité de la vision. Et on voit bien que le Coran déplace complètement la question. C'est ça qui est très intéressant, parce que dans le Coran, le nom du fils n'est pas très important. C'est-à-dire qu'on vient, on lutte contre la généalogie. Ce qui est très important, c'est le rapport à Dieu. C'est pas le fait que vous soyez issu de telle ou telle famille.
Le nom du fils est tellement peu important, Anne-Sophie Monsinet, qu'on ne sait pas tellement de quel fils il s'agit.
Oui, effectivement. Donc le Coran ne nomme pas l'enfant.
Ibrahim avait deux fils.
Voilà, contrairement à la Bible qui nomme Isaac. Alors l'interprétation majoritaire considère qu'il s'agit d'Ismaël. Mais il y a une minorité qui pense qu'il s'agit d'Isaac, donc dont je fais partie. Alors je précise que je ne suis pas la seule. Hein. Vous avez aussi, par exemple, Ibn Arabi, qui est un grand saint soufi, qui lui aussi penchait plutôt pour Isaac. Alors en fait, on se rend compte dans le verset coranique, donc que ce n'est pas précisé, mais il y a le verset final de ce récit qui dit « Nous, donc nous c'est Dieu, hein, nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'Isaac comme prophète parmi les intègres ». Si on considère que c'est Isaac qui est sacrifié, eh bien ce serait sa récompense, si vous voulez, parce que comme l'a très bien rappelé Rachid Benzine, il a accepté aussi d'être sacrifié. C'est une épreuve à la fois pour Abraham et à la fois pour l'enfant. L'enfant accepte son sacrifice, c'est quand même pas rien. Donc ce serait sa récompense à lui qui a accepté d'être sacrifié, eh bien pour ça il sera nommé prophète.
Allez, on poursuit dans un instant cette exploration du Coran à hauteur d'enfant et on parlera de la place de l'animal.
Barbatrick de Dorothée Barba sur France Inter.
De revoir cet endroit, chaque année en l'état, le plongeoir tout là-bas, et le sable de 5A, les gouttes d'eau et les carreaux. Cette image ne change pas. même photo. Et quelques gens autour et le son de ce bourdon qui revient toujours. Laissons grand ouvert. Et laissons venir la cinquième saison. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? De retour en septembre, on ira boire quelques verres. Mais les jours se ressemblent, qu'est-ce qu'on va faire d'extraordinaire quand on va redescendre? Après novembre vient l'hiver, qu'on appréhende et qu'on espère. Après la coupe, le regain, le pollen et la poussière. Laissons grand ouvert et laissons venir la cinquième saison. Laissons entrer l'air et laissons venir la cinquième saison. Entrer l'air, le grand air que l'on inspire, que l'on espère faire trembler les cloisons, et souffler sur les bouts de verre, nos griffures et nos vieux cotillons, et souffler sur la poussière, les points d'usure, quand l'amour tourne en rond. Laissons grand ouvert. Venir la cinquième saison, laissons entrer l'air et laissons venir la cinquième saison, laissons grand ouvert et laissons venir la cinquième saison, laissons entrer l'air et laissons.
C'était Ours sur France Inter, la cinquième saison, choisie par Jean-Baptiste Audibert. Barbatruc est réalisé par Christophe Imbert, préparé par Anne-Sophie Dazar. Gilles Gaillard est à la technique. Le Coran expliqué aux enfants, avec Rachid Benzine, islamologue, avec Anne-Sophie Moncinet, qui est imam, et avec Ramzi Assadi, auteur de L'Islam raconté et expliqué. C'est un livre pour enfants. Nous parlons d'un sacrifice aujourd'hui, celui que consent à faire Ibrahim ou Abraham, qui est prêt à offrir la vie de son fils pour Dieu. Alors, on a entendu tout à l'heure cette histoire racontée, simplifiée, dans le livre de Ramzi Assadi. J'aimerais à présent qu'on entende le Coran dans le texte. Vous nous faites la lecture, Anne-Sophie Moncinet.
Alors, nous lui fîmes la bonne annonce d'un garçon doux de caractère. Quand celui-ci eut atteint l'âge de s'activer avec lui, Abraham dit « Ô mon fils, vraiment, moi, je vois en songe que je t'immole. Considère alors ta façon de voir. » Il dit « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, si Dieu veut, parmi les endurants. » Quand tous deux s'étaient abandonnés à la volonté divine et qu'il le mit front contre terre, nous l'appelâmes. « Ô Abraham, tu as certes authentifié la vision. Vraiment, c'est ainsi que nous rétribuons les excellents. Vraiment, ceci est bien la mise à l'épreuve explicite. » Nous l'avons racheté par une offrande sacrificielle sans commune mesure et nous avons maintenu son influence jusqu'au dernier. Paix sur Abraham, c'est ainsi que nous rétribuons les excellents. Vraiment, il était parmi nos adorateurs mettant en œuvre le dépôt confié. Et nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'Isaac comme prophète parmi les intègres.
Extrait donc du Coran.
Donc c'est dans la sourate 37, versets 101 à 112.
Le Coran est un livre sacré qui gagne à être lu à l'oral et donc écouté plutôt que lu, je crois, Anne-Sophie Monsiné.
Alors, je pense que les deux approches sont intéressantes, puisque quand on l'écoute en arabe, effectivement, on gagne la beauté poétique de la langue.
La musicalité,
le fait que ce soit cantilé aussi, donc chanté, récité. Ça, évidemment, on le perd complètement quand on le lit avec une traduction. Mais la traduction peut permettre d'approfondir la compréhension pour des personnes qui ne sont pas arabophones. Et donc, c'est aussi indispensable de passer par plus qu'une traduction, mais une analyse du texte en profondeur.
Ramzi Assadi, vous disiez tout à l'heure ne pas être un spécialiste du Coran et de l'islam. Oui. Vous avez écrit ce livre justement pour enquêter sur cette culture, presque pour vous remettre à niveau. C'est ainsi que vous le présenteriez ?
Oui, c'est ça. Moi, j'avais une culture de plein d'éléments.
Éparpillée.
En travaillant sur ce livre que j'ai assemblé façon puzzle, en fait, vraiment, pour pouvoir raconter l'islam d'une manière globale et toutes les histoires que je connaissais de manière éparse.
Et alors, quel a été, en travaillant sur ce livre, votre regard sur cette histoire, le sacrifice du fils d'Ibrahim ?
Alors, je ne connaissais pas, par exemple, l'impact de cette histoire. Moi, je connaissais, comme beaucoup de musulmans, la fête du mouton. On connaissait globalement l'histoire du sacrifice, mais je ne connaissais pas le rapport avec la relation entre le père et le fils. Je ne pensais pas que le rapport était si important. Je pensais que c'était le sacrifice d'Ibrahim et que Ismaël avait un rôle presque secondaire dans cette histoire. Et je me suis rendu compte de l'importance du rôle d'Ismaël dans cette histoire.
Alors, on en oublie presque qu'on a failli sacrifier un enfant et que finalement, on a sacrifié un animal.
C'est ça, exactement.
Anne-Sophie Monsiné, je parlais tout à l'heure de tester la foi. C'est de ça qu'il s'agit, tester les limites de la foi d'Abraham.
Alors, en partie. Et effectivement, comme les réactions d'enfants nous l'ont montré, ce récit, il est déroutant d'un premier abord.
Dérangeant,
surtout avec notre regard contemporain. Donc là, il y a vraiment cette idée de nous faire comprendre, et ça, c'est un sens qui peut parler à tout le monde, eh bien que nos joies, nos peines, nos désirs, nos envies, elles ne dépendent pas de nous, elles dépendent toujours de Dieu, et on peut jamais en avoir une emprise complète dessus. Donc ça, c'est un premier niveau de lecture. Il y a un autre niveau de lecture qui est une analyse plus contextuelle. Puisque donc Abraham a évolué donc au sein d'un peuple plutôt idolâtre et chez qui il était coutumier de sacrifier des humains, de sacrifier des enfants. Ça explique d'ailleurs sa réaction qui peut paraître aussi très étrange dans le verset. Il a pas l'air choqué. Il a pas l'air surpris du tout de cette demande. Alors il est triste, ça n'enlève rien à la tristesse, mais il est pas surpris et il accepte en fait très facilement cette demande-là. Pourquoi ? Eh bien parce que c'était considéré comme un honneur en fait de sacrifier son enfant pour des divinités. Voilà aussi pourquoi l'enfant accepte. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on ne va pas sacrifier cet enfant-là. On va le remplacer par un animal. Donc là, c'est une façon pour Dieu de faire comprendre que maintenant les sacrifices humains c'est terminé. On n'en veut pas. Moi, je n'accepte pas ça. Vous sacrifiez des animaux et ce sera institué après par Moïse dans la Torah, plus tard, où il y aura une interdiction des sacrifices humains. Mais c'est une première approche.
Alors, la mort de l'animal, je vous interromps, fait réagir les enfants, Anne-Sophie Monsiné. Écoutez les propos recueillis par Caroline Pommès, toujours à Chamonix.
Après, moi, je suis attachée aux animaux, alors ça sera un peu dur. Mais par exemple, ça sera un animal que j'aimerais, un rat par exemple, bah oui, je le tuerais à la place de mon chat. C'est...
Un chat, un chien et plein d'autres que j'aime, bah, je ne serais pas capable.
C'est pas bien moi, parce qu'après, l'animal il est mort et après, moi, c'est comme si c'était nous qui étions morts.
Je trouve que c'est un peu illogique de tuer juste un animal pour sacrifier parce que ça sert un petit peu à rien de faire ça. Parce que l'animal il te connaît pas trop.
Tu attends qu'il s'accouple. Et avec une femelle, un mâle, ils font un enfant et comme ça tu tues le mâle. Et comme ça, bah du coup, si c'est le mâle, l'enfant qu'ils ont fait ou une femelle, et bah au moins t'en as tué un pour en avoir un autre.
Tuer un animal, c'est pour la plupart des gens, c'est correct, mais après, je sais qu'il y a des personnes, je sais pas, je pense aux végétariens ou des trucs comme ça, c'est moins cool. Donc eux, pour eux, dans tous les cas, c'est pas bon.
Je sais pas, dans mon esprit, les animaux, c'est moins grave de tuer un animal que de tuer un humain. C'est comme les chasseurs, ils tuent des sangliers. Moi, je me verrais pas tuer quelqu'un, un humain, quoi.
Abraham, il a bien fait de tuer l'animal au lieu de son fils, mais pour moi, ça devrait peut-être pas être une fête. Mais après, je sais pas, j'ai pas à dire là-dessus, parce que moi non plus, je crois pas, quoi.
Bah, moi, je pense que c'est plus grave de sacrifier des animaux, parce que sinon, on pourrait pas vivre sans les animaux.
Voilà, faut pas se dire que c'est une histoire qui se finit bien, parce que dans tous les cas, il a quand même tué un être vivant. C'est pas rien.
Le pauvre, quoi, il a rien fait.
Voilà, l'animal, effectivement, n'a rien fait, le pauvre Rachid Benzine. Est-ce une histoire qui se termine bien, comme justement le contredit cet enfant à l'instant?
Je pense qu'on ne peut pas lire cette histoire sans lire ce qui se passe aujourd'hui sur la question animale. Donc, nous sommes imprégnés de ces questions et ce sont des présupposés ou des représentations qui vont automatiquement interroger ces textes qui ont été écrits dans un autre temps, dans d'autres contextes où la question de l'animal n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui, où la question même de la pénurie était importante. Ce qui est très important, on pourrait lire, je dirais, ce récit de différentes manières. On peut le lire, je dirais, à la René Girard, l'anthropologue, qui montre que, justement, cette idée du sacrifice, ce qui a été dit, c'est que, finalement, on met fin au sacrifice humain et donc il y a le don, puisque le Coran parle d'un don, je dirais, en termes d'animal. Mais on peut aussi se poser la question de la substitution. C'est-à-dire qu'est-ce qui est très intéressant, c'est ici c'est le phénomène de, au lieu de faire mourir le fils, on fait mourir une bête. Mais du coup, ça veut dire aujourd'hui quel type de substitution peut-on faire autour de cette fête, compte tenu de, je dirais, de notre contexte qui montre qu'il y a un lien très fort entre la nature, les animaux et les hommes. Donc qu'est-ce qu'on fait finalement de cet équilibre-là?
La fête musulmane de l'Aïd est bel et bien un hommage à cet épisode du Coran, Rachid Benzine.
Absolument, et c'est en plein contexte de pèlerinage, il y a quelque chose qui est rappelé sur la question de ce sacrifice, mais on pourrait se poser fondamentalement aujourd'hui la question, puisque, en tout cas selon la tradition musulmane, on dit que lorsqu'on tue un animal, c'est pas simplement pour le plaisir, c'est à la fois, il est tué dans le sens d'un sacrifice, mais il y a une partie qui revient à votre famille, une partie qui revient à vos voisins et une autre partie qui revient finalement, je dirais, aux pauvres. Et donc, si on oublie finalement cette question-là, elle me semble fondamentale, mais ce qui est très intéressant, c'est lorsque vous passez votre temps à manger de la viande tous les jours, quel est le sens de ce sacrifice-là? Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans se posent la question, est-ce que finalement on va continuer à être dans une espèce de chosification au niveau de l'animal, ou est-ce que finalement cet argent qui doit servir pour l'achat de l'animal, est-ce qu'on peut le donner à des associations, est-ce qu'on peut le donner à des nécessiteux? Et je trouve très intéressant en tout cas cette réflexion qui a lieu aujourd'hui dans les communautés musulmanes.
Et la lecture du Coran permet cette réflexion-là sur la consommation de viande aujourd'hui. Ça ancre la religion dans le temps présent, clairement.
Je pense en tout cas, vous savez, une tradition, il faut qu'elle soit vivante, sinon ça fait une tradition morte, sinon vous avez une espèce de répétition eux-mêmes, mais c'est tout sauf une tradition. Et le principe d'une religion, c'est justement cette capacité à se renouveler dans beaucoup de lectures. Je dirais, on pourrait très bien voir ce récit comme un moment Abraham qui est d'abord choqué. C'est-à-dire qu'en fait, dans le texte, il y a beaucoup de silence. Et les commentateurs vont remplir ces silences-là.
Alors, ce qui interpelle aussi dans cette histoire, c'est que la famille passe après la foi. Ibrahim est prêt donc à sacrifier son fils. Écoutons les remarques, les questions, les opinions à ce sujet des enfants et des ados que Caroline Pommès a rencontrés.
Ça a été difficile pour Abraham de sacrifier son enfant. Parce que quand on a un enfant, on s'y attache. On s'y attache, on l'aime, on lui donne de l'affection.
Non, moi je pourrais pas, je pourrais pas tuer quelqu'un de ma famille. Même pour n'importe quoi.
Il y aurait des gens qui seraient capables de sacrifier leur enfant pour gagner, pas, n'importe quelle chose.
Comme si on leur proposait, vous tuez un des enfants, on vous donne, deux ou trois millions. Il y en a, ils seraient, juste pour l'argent, ils seraient capables d'y faire. Tu crées une vie, tu la tues pas.
Bah non, mais même, on tue pas un enfant. C'est comme moi, si j'ai un chat, je m'attache beaucoup à lui, je vais pas le tuer pour gagner 1 million d'euros, par exemple. C'est horrible de faire ça. Voilà, juste de la croyance. Même si on me dit que Dieu va te bénir jusqu'à la fin de ta vie, moi, je tue pas mon chat pour ça, en fait. Donc, créer des liens, tu passes ça.
Bah, moi, je ferais pas ça, parce que moi, je dirais que si je serais un adulte et que j'aurais un enfant, je ferais tout pour le protéger, quoi. Ça serait impossible, trop dur de le sacrifier ou de faire. Enfin, je pourrais me sacrifier, mais pas le sacrifier.
Moi, je trouve ça un peu illogique, parce qu'on l'a quand même mis au monde. L'enfant, du coup, si on l'a mis au monde pour le sacrifier, c'est un petit peu bizarre. Il met l'enfant au monde et après il le tue. Enfin, c'est qui déjà qui lui a demandé de le sacrifier et déjà pourquoi il l'a demandé?
Quel est l'enjeu derrière? À quoi ce sacrifice? Voilà, si tuer quelqu'un de ma famille ça peut sauver la planète, oui. C'est dur et je dis oui sur le moment, mais sur l'instant, est-ce que je le ferais? Abraham aimait peut-être plus Dieu que son fils. Et il a fait le choix de tuer son fils plutôt que de renier Dieu.
C'est comme si mon père il croyait beaucoup à Dieu et qu'il y avait Dieu qui venait et qui lui demandait de me sacrifier ou de sacrifier mon petit frère qui sait pas. Enfin voilà.
En tout cas, mon père il ferait jamais ça. Et si un papa fait ça, ça veut dire qu'il aime pas son enfant. C'est quand même triste. Parce qu'après, il peut pleurer jusqu'à la fin de sa vie.
Alors Anne-Sophie Monsinet, je rappelle que vous êtes imam. Que répondez-vous à ces enfants qui disent qu'Abraham aimait plus Dieu que son propre fils ?
Eh bien, je pense que c'est pour ça aussi qu'il est important de revenir sur l'essence de cette histoire, et notamment l'essence aussi peut-être plus ésotérique, qui sont transmises notamment dans les voies soufis. C'est pas pour autant moins accessible, hein, quand on l'explique, même des enfants peuvent comprendre ces sens-là, puisque dans le soufisme, on considère que y a beaucoup d'images, beaucoup de symboles, et donc ici, l'enfant, le fils d'Abraham, représente ce qu'on appelle l'ego. Donc l'ego, c'est le nefs en arabe, c'est tout ce qui nous donne l'impression d'être séparé de Dieu, d'être coupé de Dieu. Ça donnera les dérives comme l'égoïsme, de toutes les émotions négatives. Et dans le soufisme, on considère que l'on doit cheminer vers Dieu pour nous transformer et sacrifier notre ego, pour pouvoir vivre selon notre esprit divin, donc atteindre une certaine perfection.
Donc le sacrifice de l'enfant à ce titre est une métaphore.
Exactement.
De se débarrasser de ce qui ne compte pas finalement.
Tout à fait, c'est le fait en fait de sacrifier son ego. Seulement l'ego, on en a besoin, c'est pas que négatif, parce que si vous n'avez pas d'ego, eh bien, vous êtes un petit ange qui vole dans le ciel, vous n'êtes pas du tout incarné dans un corps, donc on doit garder notre ego. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas le sacrifier, c'est l'éduquer, pour qu'il ne nous domine pas, mais pour que ce soit nous qui soyons maîtres de cet ego. Et Abraham, en acceptant d'aller sacrifier son enfant, eh ben c'est bon, il a fait le travail. Il a accepté d'aller sacrifier son ego. Donc il n'y a pas besoin de le faire.
Mais
donc,
il l'aurait fait s'il n'avait pas été arrêté.
Il l'aurait fait, mais Dieu sait bien ça. Mais justement, Dieu, au dernier moment, hop, non, c'est bon, tu as sacrifié ton ego. Tu n'as pas besoin d'aller au bout de cette démarche, puisqu'il faut le garder, cet ego-là. Tu as accepté de le sacrifier. Donc en fait, il avait atteint la réalisation spirituelle, ce qu'on appelle la réalisation spirituelle.
Que dites-vous de cette métaphore, Ramzi Hassadi? Le fils d'Ibrahim, c'est l'ego d'Ibrahim.
Je la trouve très intéressante. Mais je voulais revenir sur le rapport entre Ibrahim et Dieu. Il y a un rapport de confiance qui était déjà installé avant ce sacrifice, qui existait déjà. Donc si Ibrahim fait confiance à Dieu, c'est parce qu'il l'a déjà sauvé avant. C'est pour ça qu'il a une confiance, on peut dire, aveugle à ce que lui demande de
faire. C'est pour
Dieu.
Ça qu'il va au bout de cette demande en songe.
Absolument.
Rachid
Benzine. Enfin, si je me trompe pas. Hein, mm-hmm.
En tout cas, c'est important de bien considérer d'abord que c'est une vision. Ensuite, Abraham entre en dialogue avec son fils et c'est le fils qui prend la décision. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la Bible, puisque Isaac ne parle absolument pas jusqu'à ce qu'il découvre ce que lui réserve le père. Deuxièmement, je dirais que c'est important pour les enfants de garder cette idée du scandale.
Pourquoi ça, l'idée du scandale?
Pourquoi Dieu demande ça? Pourquoi demande-t-il le sacrifice de son fils?
Ça fait partie du processus d'être dérangé par cette histoire,
je
voulais
pense,
dire.
Je pense que si les textes religieux ne dérangent pas, c'est plus des textes religieux. Et donc, il faudrait pas non plus, me semble-t-il, mettre des antivirus parce qu'il y a quelque part, ça nous gêne quelque chose.
Si on est choqué, c'est que ça marche.
C'est que ça marche, et justement, il faut creuser et ne pas annuler. Et troisièmement, je dirais qu'on ne peut pas comprendre cette idée du sacrifice si on ne comprend pas que le Coran est en lien et en dialogue avec d'autres textes de la Bible qui font que, d'abord, Dieu a promis une multitude de progéniture à Abraham, qui a eu du mal à avoir ses enfants. Voilà que Dieu lui demande finalement de sacrifier cet enfant. Et donc, du coup, se pose la question, il m'a promis une progéniture. Qu'en est-il si je sacrifie mon fils? Et vous voyez, et cette idée de la confiance, elle est absolument, me semble-t-il, fondamentale, tout en gardant, moi j'y tiens beaucoup à cette idée du scandale.
Très belle idée, le scandale, et un texte religieux qui aussi est là pour déranger. On écoute un peu de musique à présent, la chanteuse américaine Fushi, et on va en venir dans un instant au sens profane du mot sacrifice. Voici Deep End. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. Had a gun, flipped the script. Had a big bone to pick. Got the short end of sticks. So we made a fire dead. Let it burn to a crisp. And that's a surefire flip. She's a boss, she's a... I take that as a compliment. I see I'm moving real low, believe I'm on a high note. Always leave a loyal, mama raised me thorough. Yeah, better wake up, it's on the way up. You ain't finna play her. Shawty gon' get that paper. Shawty tongue rip like razor. Shawty got wig, got flavor. Part of my d***s in makeup. Pay her, jump it and hit that layup. Shawty ain't with them games, yeah. Shawty gon' get that paper, pay her. I've
I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. Please proceed to light this bitch up. Life ain't fair, you fight for your cut. Think I spy your eye on my bucks. Great look, not a lion woke up. You eyeing my crying, live for the minor event. I finally slipped, built on nobody's cement. Nobody went in, contain what I'm bottling in. It's been a Shawty gon' get that paper. Shawty tongue rip like razor. Shawty got wit, got flavor. Part of my and makeup, pay her. Shoot and hit that layup. Shorty ain't with them games, yeah. Shorty gon' get that paper, pay her. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me.
C'est un nouvel épisode de notre série d'émissions spéciale religion. Après la Bible et la Torah, nous vous proposons aujourd'hui le Coran expliqué aux enfants et un épisode du livre musulman en particulier, le sacrifice d'Abraham, avec Anne-Sophie Moncinet qui est imam, avec Rachid Benzine, islamologue et écrivain, et avec Ramzi Assadi, membre de la bande de Par Jupiter sur France Inter, mais aussi auteur d'un livre jeunesse intitulé « L'islam raconté et expliqué ». Alors, on disait tout à l'heure, le sacrifice de l'enfant d'Ibrahim a donné lieu à cette fête de l'Aïd. Diriez-vous, Rachid Benzine, qu'elle est devenue une fête profane, au même titre que Noël pour les catholiques ?
En tout cas, on peut le dire, mais dans la mesure où cette fête, ça ne fait pas partie des cinq piliers de l'islam. Et ensuite, on dit souvent c'est la fête du mouton. Je ne suis pas sûr que le mouton comprenne que c'est sa propre fête. Je pense que si on lui demandait, il dirait non, absolument pas. Mais on voit bien qu'effectivement, ce rituel, c'est parce que la question du rituel, elle est très importante et elle permet de structurer une communauté. Ça permet aussi d'avoir un temps fort dans le temps, je dirais, profane, un moment où on va célébrer quelque chose tous ensemble.
À quelle occasion employons-nous le mot sacrifice ? Je disais tout à l'heure qu'il n'était pas toujours sacré, ce mot, loin de là. Voici des enfants et des ados qui vont réfléchir au sens de ce mot.
En fait, un sacrifice, c'est quand on tue une bête ou un humain, qu'on l'offre à Dieu. Il y a sacrifice pour autre chose quand, par exemple, on abandonne quelque chose de très très important pour nous et on prend autre chose. C'est une décision dure, quoi.
Quand on abandonne quelque chose qui nous est cher ou...
On a quelque chose de très 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 précieux pour nous, mais pour avoir une autre chose, on est obligé d'abandonner cette chose.
C'est quelque chose que t'as pas envie de faire, mais que tu fais quand même pour un but, pour quelque chose en échange.
Moi, un sacrifice pour moi, c'est comme si tu devais faire un régime pendant un an. Parce que c'est toi qui décides de faire... d'arrêter, enfin de faire un régime pendant un an, c'est pas les autres.
Mon meilleur,
c'est toi. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais dans une garderie, il y a pas longtemps même, il y avait quelqu'un qui avait cassé une caisse avec les ballons dedans et on pouvait plus les mettre. Tout le monde s'est assis par terre et moi, du coup, je me suis sacrifié, je me suis dénoncé alors que c'était pas moi, pour qu'après, à la fin, j'ai été puni. Et mes parents m'ont puni. Je me suis sacrifiée juste pour que les autres aillent jouer.
Par exemple, un ami à la cantine, il n'y avait pas assez de kiwi, du coup, il s'est sacrifié, du coup, il n'a pas pris de kiwi.
Oui, par exemple, j'ai déjà sacrifié mes notes pour ma meilleure amie. Un jour, en fait, elle n'avait pas révisé, j'ai fait tout à mon évaluation et on a eu la même note toutes les deux. Elle a dit que c'était vraiment une vraie amie, ça a prouvé que voilà, on était prête à tout pour sacrifier quelque chose, nous deux.
Ouais, moi, je l'ai fait par rapport à mes études. Genre, j'ai sacrifié mon temps au lieu de sortir et tout ça. Ça, c'est pas un grand sacrifice, mais ouais, c'est un petit sacrifice que j'ai fait pour moi-même. C'est pour mon mieux à moi, genre, pour m'améliorer, pour se concentrer sur moi-même.
Si, moi, je pense que mes parents, ils ont fait des sacrifices. Pour m'offrir quelque chose, ils ont dû sacrifier des trucs ou des choses comme ça. J'ai pas d'exemple comme ça, mais c'est sûr que nos proches, ils ont fait des sacrifices.
Ma mère, elle est restée vivre à Cham juste pour moi quand elle s'est séparée de mon père. Et elle est restée pour moi et mon frère. Ça, je pense que c'est un sacrifice. Je sais pas, c'est beau, mais C'est trop gentil.
Ouais, ça prouve l'amour, mais ça fait mal aussi. Enfin, si toi tu fais le sacrifice, ça fait mal, mais en même temps, tu te dis que t'as rendu quelqu'un heureux ou un truc comme ça.
Des propos recueillis dans les rues de Chamonix, maison dit Cham, comme vous venez de l'entendre. Que raconte-t-il, à votre avis, Rachid Benzine, l'emploi de ce mot en dehors de la sphère religieuse, sacrifice?
En tout cas, on voit bien que c'est le dévouement, le renoncement à quelque chose, et le renoncement même parfois à sa vie, dans l'idée du martyr. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les conceptions que nous avons aujourd'hui du sacrifice ne sont pas celles du religieux. C'est-à-dire que ce que nous disons quand on voit une mère qui se sacrifie pour ses enfants ou se sacrifie pour la question du kiwi que nous avons entendu, c'est-à-dire qu'on est véritablement focalisé sur celui qui fait, c'est-à-dire le sacrifiant, celui qui sacrifie. Or, dans le religieux, ce qui est très important, c'est plutôt le destinataire, celui à qui on fait cela, c'est-à-dire l'objet. Et on fait passer l'objet, finalement, de l'élément profane vers le sacré. C'est cela l'idée du sacrifice. C'est un rite cultuel où on prend un objet qui relève du monde profane et par le geste on le fait passer à l'idée du sacré. Et donc on voit bien qu'on est aux antipodes de la notion du sacrifice d'aujourd'hui.
La personne qui se sacrifie est beaucoup moins importante dans l'acception sacrée de ce mot.
Absolument. Mmh.
J'ai juste une question. C'est parce qu'on attend toujours quelque chose en retour chez nous.
Absolument.
Et donc, oui. D'accord, c'est ça.
Okay. Anne-Sophie Mancinet, c'est intéressant ce regard des enfants sur ce mot-là.
Oui, tout à fait. Ce thème, en fait, la thématique du sacrifice, elle est très présente dans les textes sacrés. Elle touche beaucoup d'histoires, pas seulement celle d'Abraham. Et effectivement, dans un sens religieux et sacré, c'est vraiment cette idée de sacrifier des choses qui relèvent de l'ego, donc des désirs, nos envies, etc., pour Dieu. Et on va retrouver ça, en fait, dans plein de pratiques. Quand on jeûne, par exemple, on sacrifie une envie de manger pour Dieu. Alors, c'est évidemment pas la seule voie possible. On n'est pas obligé de passer par du renoncement pour atteindre des états spirituels développés, mais c'est une voie qui est évoquée énormément et donc qui semble bien marcher.
Et vous, en tant qu'imam, ça vous dérange de l'entendre employer à toutes les sauces, ce mot ?
Non, parce que j'accepte aussi qu'il y ait des mots qui tombent un peu dans le profane et qu'on utilise aussi de cette manière-là. On sait faire la part des choses.
Mais attendre quelque chose en retour, comme disait Ramzi Assadi à l'instant, c'est vraiment le dévoyer.
Ah oui, là par contre c'est beaucoup plus gênant parce qu'on n'est plus dans le sacrifice. On est dans j'attends quelque chose, c'est plus du sacrifice.
On disait tout à l'heure qu'Ibrahim avait deux fils. Il y a un petit doute sur lequel des deux fils a failli être sacrifié. Est-ce qu'on a une idée du fils préféré ? Lequel est le fils préféré, Rachid Benzine ?
En tout cas, dans la tradition islamique et dans le Coran, il n'y a pas l'idée d'un fils préféré. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement la Bible, qui continue à fonctionner sous la notion de généalogie du peuple choisi, du peuple élu, est obligée de passer par Isaac. Mmh. Isaac qui veut dire « il rira », alors que Ismaël, c'est l'idée d'écouter. Donc Ismaël, ça veut dire « Dieu écoute ». Et c'est très important de ne pas se focaliser sur les personnages. Ce qui est très important, c'est plutôt la signification qu'il y a derrière les mots. Que ce soit Isaac, au sens où il rira, et Ismaël, Dieu écoute. Vous voyez. Et je pense que les lecteurs doivent beaucoup plus être interpellés par la signification de ces noms, de ce que ça peut signifier en général, plutôt que de savoir si Abraham a eu véritablement deux fils, et puis si Abraham a véritablement existé, parce qu'on est dans la figuration. Abraham est une figure. Parce que, en fait, qu'est-ce que proposent les textes religieux ? Ils proposent des figures aux croyants de telle sorte qu'il puisse y avoir une variation imaginative de leur identité. D'un seul coup, je deviens Abraham, d'un seul coup, je deviens Moïse, d'un seul coup, je deviens Jésus. Ce sont des modèles d'identification. Et ça, c'est très important d'avoir cette pluralité d'identification. Parce que ces figures-là reconfigurent votre réalité. Autrement dit, les textes religieux offrent un monde dans lequel vous allez pouvoir habiter. C'est comme un roman, c'est comme une bonne pièce de théâtre, c'est comme un beau tableau. D'un seul coup, vous êtes pris dans ce monde-là. Et votre réalité, votre identité est reconfigurée et vous revenez à la réalité autrement. Vous avez vécu autrement une expérience. C'est-à-dire que si à travers les textes religieux, vous ne faites pas une expérience à la fois spirituelle, votre corps et votre rationalité, c'est qu'il a manqué quelque chose.
Et à ce titre-là, vous diriez, Rachid Benzine, que la lecture du Coran et ce personnage du prophète Abraham en particulier devrait intéresser tout le monde, croyant ou non, musulman ou non ?
Je pense que d'abord c'est une figure biblique qui a marqué l'Occident, l'idée du sacrifice a marqué l'Occident, mais ce que je dirais sur la question du Coran, ce qui est très important, c'est d'abord l'écoute. Parce que avant de prendre la parole, il y a une écoute. Est-ce qu'on est capable d'écouter les textes ?
Anne-Sophie Moncinet, ce personnage d'Abraham qui plus est permet presque, j'allais dire, de réconcilier les religions. En tout cas, c'est un pont entre les différentes croyances.
Tout à fait, puisque donc l'alliance qu'Abraham a conclue a engendré cette promesse qu'il aurait donc une multitude de descendants. Et donc vous avez du côté d'Isaac les prophètes juifs, donc de Moïse jusqu'à Jésus, et du côté d'Ismaël, donc la descendance jusqu'à Mohammed. Et donc au-delà de ça, au-delà de ce lien de sang, il y a bien sûr toute la filiation spirituelle, donc tous ceux qui vont se rattacher à ces prophètes, donc les juifs, les chrétiens, les musulmans. Donc revenir à Abraham, c'est se rappeler cet élément fondamental et peut-être du coup envisager que la vérité ne se trouve pas enfermée dans une seule religion, mais peut-être bien morcelée dans chaque.
C'était Rachida sur France Inter. Rachid Benzine, j'avais une petite question un peu anecdotique à vous poser. Je sais que vous êtes un ancien champion de kickboxing devenu islamologue. J'aimerais savoir, le parcours est étonnant quand même, j'aimerais savoir ce que la religion a eu comme empreinte sur votre carrière sportive, ou peut-être est-ce l'inverse?
Alors il y a beaucoup de malentendus là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait j'étais déjà universitaire, j'enseignais déjà quand je suis devenu champion de France de kickboxing.
Ça n'enlève rien au charme de parcours.
Voilà, donc je veux passer du kickboxing à l'islamologie. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le terrain de l'islamologie et le terrain de l'islam, il est encore beaucoup plus violent que ce qu'on peut avoir sur le kickboxing. Parce qu'il y a beaucoup de malentendus, de malentendants, et c'est très difficile de se frayer un chemin sur la question de la nuance et de la complexité. Mais en tout cas, le religieux, vous savez, pour moi, c'est un langage. Paul Ricoeur disait souvent que les religions sont comme des langues. Aucune langue ne peut dire la totalité du monde. Vous avez besoin des autres langues. Mais c'est un langage qui est là pour l'homme, pour qu'il puisse interpréter son existence. Alors quand on est religieux, c'est avec le transcendant, avec l'idée de la métaphysique, mais que les textes religieux donnent à penser à ceux qui croient et à ceux qui ne croient pas.
Mais les coups sont interdits entre collègues islamologues.
C'est ce qu'on dit.
Allez, des conseils de livres jeunesse à présent. C'est notre rendez-vous avec Denis Chessou tous les dimanches. Au programme de l'Atulu Mon Petit Loup cette semaine, des flamants roses et une quête d'identité. Bonjour Denis.
Dorothée Barba sur France Inter. L'Atulu Mon Petit Loup.
Eh ben c'est un très bon résumé, merci à vous Dorothée Barba. Voici donc l'actualité du livre pour enfants, qui commence par La malédiction des flamants roses, signé Alice de Nussy et Jannick Coat, aux éditions Grasset Jeunesse, à partir de 3 ans. Alors si vous vous demandez comment un livre vient au monde, ça tombe bien, car Alice de Nussy, l'autrice, Jeannick Coat, l'illustratrice, et Valéria, l'éditrice, sont en train d'en créer un. Oui, là maintenant, tout de suite.
Pour commencer, voici notre premier personnage. C'est facile, il est rose, plein de grâce, et il se tient en équilibre sur une patte.
Ah, Jeannick a dessiné une danseuse étoile. Ah, c'est peut-être pas ce que Valéria, l'éditrice, avait en tête.
Jeannick, je sais qu'une danseuse est gracieuse, que son tutu est parfois rose et qu'elle sait se tenir en équilibre, mais sur une jambe, pas sur une patte.
Bon, petite confusion. Notre livre du jour parle bien d'un flamant rose.
Il va lui arriver plein d'aventures, mais il ne les vivra pas seul. Jeannick va donc lui dessiner des compagnons de voyage.
Beaucoup d'autres flamants roses. Ils prennent toute la page.
On pourrait peut-être varier un peu, non? Et pourquoi ne pas ajouter un corbeau? Ce serait joli, un corbeau noir au milieu du rose.
Et puis pourquoi pas rajouter d'autres animaux? Comme un éléphant, un bel hippopotame et un poulpe élégant.
C'est parfait, on peut s'arrêter là. Maintenant, nous devons choisir le lieu où va se dérouler l'histoire.
Direction la forêt. Ah bah ça, y a pas mieux pour raconter une histoire. Bon, à condition que les personnages s'y sentent bien.
C'est moi, je me trompe ou on est un peu coincé?
Eh oui, l'éléphant n'a que très peu de place entre les arbres. Et en réalité, personne ne s'y sent bien. Les autrices prennent les choses en main.
Cherchons plutôt un lieu immaculé, plus spacieux et plus lumineux.
Et allez hop, c'est parti pour la banquise. Sauf que la danseuse glisse sur le sol et le poulpe n'aime pas l'eau froide. Puis alors la plage, c'est pas mieux.
Et si nous profitions d'un été à la montagne, il y fait beau, mais pas trop chaud.
Alors c'est un succès là. Bravo aux autrices. Tout le monde est satisfait, mais il y a un hic.
Nous avons un petit problème technique. En fait, il ne reste pas suffisamment de pages dans ce livre pour terminer notre histoire.
Bon, alors est-ce que vous avez une idée pour finir cette histoire? Donc c'est une joyeuse cacophonie que ce livre qui immerge ses lectrices et lecteurs dans la création d'un album jeunesse.
Et les personnages ont leur mot à dire et choisissent leurs conditions d'existence.
Ils brisent ainsi l'illusion narrative en interpellant les lecteurs qui se retrouvent complices, hilares d'une mutinerie assez désopilante. Et donc elles sont assistées par un personnage rare dans les livres dont le travail est méconnu, c'est celui de l'éditrice. Alors La Malédiction des Flamants Roses, c'est un album qui détonne par la singularité de sa narration et aussi par son idée, tout à fait réjouissante, par son énergie et mine de rien éclairant sur la fabrique des histoires. La Malédiction des Flamants Roses, édition Grasset Jeunesse, c'est à partir de 3 ans. Identité, avez-vous dit. Qui suis-je est signé Tony Durand aux éditions Motus à partir de 6 ans. Qui suis-je?
Comment le savoir?
Je ne suis pas dans le dictionnaire. Enfin, pas encore.
Est-ce que je pourrais être quelqu'un d'autre?
À l'âge où les enfants ne sont pas encore rattrapés par la rationalité, ces interrogations font irruption dans leur tête.
Je ne suis pas un végétal, je ne suis pas non plus un minéral. Suis-je donc un animal?
Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que je suis le même chemin que les autres?
Comment construire mon truc à moi?
Eh oui, à travers chaque interrogation, chaque pensée, nous découvrons un personnage qui, comme tous les enfants, est en réflexion sur son être et son identité. Alors rien de flippant, juste un cheminement simple et profond à la fois.
Et il y a un intérêt graphique, Denis.
Eh oui, parce que notre personnage, donc à la tête, qui est représenté par l'empreinte digitale d'un index avec 2 points pour les yeux, et cette expression neutre, avec le corps en mouvement, agissant, répond avec humour et intelligence aux questions. Alors donc ça permet à l'enfant une projection en y mettant sa propre tête.
Suis-je libre? Ai-je le temps?
De la philo et de la métaphysique dans un petit album carré à lire avec les parents. Qui suis-je de Tony Durand aux éditions Motus à partir de 6 ans. Merci à Xavier Pestugia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala, Eric Oswald de Nichessou. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Et vous retrouvez les références des livres conseillés par Denis Chessou sur le site de France Inter à la page de Barbatruc, rubrique « L'as-tu lu, mon petit loup ?». Nous approchons de la fin de cette émission. C'est le moment où je pose ma question rituelle qui convoque les souvenirs personnels de mes invités. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Anne-Sophie Moncinet.
Alors pour moi, c'est l'odeur des chevaux du centre équestre où j'allais faire des stages d'équitation et donc qui m'évoque les vacances.
Le moindre cheval qui passe vous replonge en enfance immédiatement?
Tout à fait.
Ramzi Assadi, même question.
Moi, c'est l'odeur du thé. J'ai l'impression que le thé tournait en permanence, était posé sur le kenoun, c'est une sorte de petit barbecue, et qui en permanence, en continu quand j'étais petit. Et dès que je sens cette odeur, l'odeur du thé à la menthe, et ça me replonge tout de suite.
Avec beaucoup de sucre, non?
Beaucoup de sucre.
Énormément de sucre. C'est comme ça. Rachid Benzine, quelle est l'odeur de votre enfance?
Je dirais que c'était un chewing-gum qui s'appelait Flash, parce que j'ai vécu au Maroc chez l'âge de 7 ans, et que c'est un chewing-gum que tous les Marocains connaissent, parce que ça a peuplé notre imaginaire, et c'était tellement bon. Alors j'en ai racheté il n'y a pas si longtemps, mais du coup ça n'avait plus du tout le même goût.
Alors ils ont dû changer la recette, hein. Rassurez-vous comme ça, non?
Je l'espère, ou c'est peut-être moi qui m'étais fait une autre idée.
Un chewing-gum flash, du thé à la menthe et des chevaux. Il est très joli, notre cocktail olfactif de la semaine. L'islam raconté et expliqué, c'est un très beau livre jeunesse de Ramzi Assadi et Hélène Aldeguer pour les illustrations. Édition Saltimbanque, le dernier roman de Rachid Benzine, Dans les yeux du ciel, c'est à lire au seuil. Anne-Sophie Monsigné, vous avez participé notamment à un livre collectif intitulé Islam des Lumières, édition Mimesis. Grand merci à vous trois.
Merci.
Bonne fin de journée et à bientôt sur France Inter.